grand témoin. Avec le même plaisir pour le même devoir, grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Alain Yab, il est PDG de Pidma Communication, une société qui se déploie dans divers domaines, je ne me trompe pas Alain.
Absolument.
De la publicité à la promotion immobilière en passant par les mines.
En effet.
Merci Alain d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et donc avec vous dans notre entretien, on va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à travers le monde grâce à notre site internet www.radiocapi.net. On va parler de votre enfance, des Pidma Communication, c'est quoi cette structure que vous dirigez, mais aussi de l'ouvrage que vous venez de publier. Je ne sais pas si c'est un ouvrage en commun ou c'est votre publication.
Produit par Pigma Fondation, mais en effet, complètement exécuté par l'agence de com.
Alors, le meilleur de la RDC. Mm-hmm. Vous nous faites découvrir le côté positif de la RDC dans cet ouvrage.
Nous racontons l'histoire du Congo que nous avons devant les yeux, mais que nous ne nous racontons pas suffisamment.
Alors, on va y revenir dans cette émission, mais avant, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né à Kinshasa, à l'air.
Né à Lubumbashi, mais très très vite,
grandi à Kinshasa. Ouais, vous avez fait vos études à Kinshasa?
Études primaires, études secondaires à Kinshasa, j'étudie au Moamba. Mais j'ai fait mon examen d'état au collège Elika avant de quitter le pays.
Pour aller poursuivre l'université en Afrique du Sud.
En Afrique du Sud.
Pourquoi? Les parents qui vous ont envoyé ou bien c'était un choix personnel d'aller à l'étranger? C'était à la mode, hein, tout le monde voulait aller étudier à l'étranger.
Tout le monde devait partir. Tous mes amis allaient ou en Belgique, aux États-Unis. Je rêvais d'aller aux États-Unis, c'était le grand rêve. Quoi. Je voyais en Californie, ainsi de suite. Et ben, un petit peu par accident, mon père avait quelques relations en Afrique du Sud et il propose. Mais ça, c'est lorsque l'Afrique du Sud sort de l'apartheid. C'est le moment où c'est un petit peu dur, c'est pas très clair. Les images qu'on a de l'Afrique du Sud, c'est l'apartheid, les Noirs désavantagés et autres. Après une visite à Johannesburg, je me dis, écoute Alain, c'est là, va voir. Donc j'y vais un petit peu à contre-cœur, c'est une punition pour moi en réalité. Et ben j'étais agréablement surpris.
Vous ne connaissiez personne en Afrique du Sud?
Je connaissais personne. J'ai été reçu par justement des amis à lui. Surprise magnifique, le pays est superbe. Puis il est moderne, il est développé, c'était vraiment une grande surprise. J'étais un des premiers Congolais, on va dire relativement africain d'ailleurs, qui venait étudier en Afrique du Sud.
Et vous n'avez pas senti cet apartheid dont on parlait souvent lorsque vous êtes arrivé?
Je pense que l'apartheid était réel, mais je ne sais pas. On va dire j'ai parfois la chance d'être relativement naïf et de regarder les choses de manière simple. Mon expérience a été en majorité juste excellente. J'étais confortable dans les différents milieux. La séparation était évidente sur le campus. La séparation était évidente un petit peu sur le marché de l'emploi lorsque j'ai commencé ma carrière professionnelle. Mais je pense que comme dans beaucoup de choses, c'est un petit peu ce qu'on donne que l'on reçoit. Voilà quoi.
Vous vous êtes adapté?
Je me suis adapté, oui, en effet.
Facilement?
Très facilement. L'Afrique du Sud reste ma seconde nation. Hein. J'ai quand même vécu plus d'une quinzaine d'années. Mes meilleurs amis sont sud-africains, mais aussi d'ailleurs, parce que avec le temps, l'Afrique du Sud est devenue comme une sorte de plateforme où beaucoup d'étrangers ont commencé à vivre. Il y a beaucoup d'étrangers africains qui vivent à Johannesburg. Donc c'est une véritable plateforme de développement personnel, humain, de rencontrer différentes personnes. Voilà quoi, c'est un superbe pays.
Vous avez grandi dans quelles conditions, Alain?
Écoutez, je suis le premier d'une grande famille. Hein, j'ai 8 petits frères et sœurs. Mon père, c'est vraiment le
papa rigoureux.
C'est le papa rigoureux, bien que de nos jours, c'est l'homme le plus sympathique au monde. Mais là, on a grandi dans la rigueur, les valeurs du travail, les valeurs de l'amitié, les valeurs de la loyauté. Il n'y avait pas que les enfants chez nous, il y avait nous, et puis il y avait tous mes oncles. Donc c'était vraiment la
famille élargie.
La famille élargie, quoi. Mais je pense très 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 jovial, beaucoup d'amis, la fête, la grande équipe de foot, on joue au foot ensemble, Monopoly, Scrabble et autres. À l'école, comme on avait fait justement les valeurs de l'amitié, mes amis d'enfance sont mes meilleurs amis aujourd'hui, donc c'est resté pour la vie. Mes frères sont mes meilleurs amis aujourd'hui. Ben voilà quoi, on va dire relativement sévère mais très 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 ouvert d'esprit.
Je sais que vous avez plein de souvenirs que vous gardez de votre enfance, mais c'est lequel qui vous a marqué le plus?
Waouh. heureusement qu'on ne va pas parce que je vais rougir. Il faudra que je réfléchisse dessus.
Il y en a beaucoup.
Oui, mes 15 ans, c'était magnifique. On habite à Guinée, grande fête d'anniversaire, diplôme d'état. J'ai eu de très très bons points, sans être modeste.
Combien?
72%, c'était pas mal.
Distinction, bravo.
C'était pas mal. Bon, j'ai pas
il y a plein de souvenirs. Il y a plein de souvenirs. Hein.
Ouais.
Il n'y a pas un seul qui vous a le plus marqué. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, Alain Yavin?
Je n'aime pas la paresse. Je n'aime pas le manque de décision. Je n'aime pas lorsque les gens ne se prennent pas en charge, lorsque les gens ne prennent pas de responsabilité. C'est tous des facteurs humains, mais c'est des choses qui
m'irritent. Vous aimez les bosseurs?
J'aime les bosseurs, les gens qui sont engagés, les gens qui ont des idées, les gens qui ont envie de faire des choses, les gens qui font ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Peut-être. J'aimerais bien, oui, en effet. Oui.
Et c'est quoi votre plat préféré?
Je suis un mangeur de pâtes. Un mangeur invétéré de pâtes, mais j'adore des trucs très très simples. Moi, c'est haricots et riz, c'est aussi simple que ça en fait. Mm-hmm. Ce que je mange très rarement, je dois dire. Hein.
Vous mangez ça rarement, mais vous aimez.
C'est ce que j'aime.
Ouais. Vous quittez la RDC après vos études humanitaires pour l'Afrique du Sud. Mm-hmm. Et là, vous faites quelles études en Afrique du Sud?
Quand j'ai terminé mes études, mon intention c'était faire ingénieur commercial. C'était un peu le truc un peu in. Tout le monde allait en Belgique. À Mons, faire ingénieur commercial. Donc c'était ça un petit peu l'ambition. J'ai commencé par des études d'ingénieur, mais que j'ai pas fini parce que j'ai viré sur autre chose. En Afrique du Sud, j'étais à Wits University, qui est probablement la plus grande du pays, dans le département de commerce, une autre option comptabilité. Et ma vraie passion en réalité, c'était le marketing, la comptabilité, parce que bon, ça semblait super intéressant. Tout le monde parlait d'être chartered accountant, ça payait bien, et ainsi de suite. Et bon, j'étais moyen en comptabilité. J'étais moyen parce que, en fait, ça ne me stimulait pas beaucoup. Les chiffres, c'est bien, et ça m'a rattrapé. En fait, c'était très important parce que dans ma carrière, après, ben, j'en ai besoin au jour le jour. J'ai continué mon parcours en comptabilité jusqu'au bout. Mais mon vrai amour, le jour où je me suis découvert, c'est lorsque j'ai commencé ma classe de marketing. J'avais un professeur de consumer behavior. Et j'étais juste scotché. En fait, en réalité, il commençait les phrases, je les finissais. C'était intuitif. Je comprenais, on parlait de consommateurs et je comprenais où ça voulait aller. Ce que j'aime bien justement dans le marketing, c'est que c'est juste humain. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir une maîtrise ou autre pour faire du marketing. Donc, j'ai découvert ma passion. Et encore plus fort, le jour où il y a un peu dans le cadre des compagnies qui viennent sur les campus pour se présenter et recruter, il y a le DG d'une compagnie qui s'appelle Procter & Gamble. C'est P&G, c'est une grosse multinationale qui venait de revenir en Afrique du Sud après l'apartheid. Et le DG est venu dans notre classe, italien. Il est venu dans notre classe et il parlait un petit peu. Il est venu aspirer la classe, je crois la classe de troisième. Parlait un petit peu de marketing. Et là, c'était incroyable. J'étais au fond de la classe, comme d'habitude. Je suis le genre à me mettre derrière.
Pour déranger. J'imagine comme j'étais un dérangeur.
On va dire que je ne suis pas nécessairement classique. Et donc, le DG qui parlait, et il parlait, il décrivait la réalité de la compagnie, leurs ambitions, leurs visions. J'étais derrière et je me suis dit, waouh, voilà ce que je vais être dans 10 ans. Et c'est là que c'est parti. À la fin de la session, je l'ai abordé. Je lui ai demandé un rendez-vous. Il était très ouvert. Il m'a fixé rendez-vous une semaine plus tard. Je suis passé, j'ai emprunté un costume chez un grand frère. J'ai été le voir et en 5 minutes, j'étais engagé. Ce qui était incroyable en réalité.
Il vous a engagé dans sa compagnie.
Ils ont déjà fait l'offre. En tout cas, ils m'ont fait une offre. Hein, l'offre de passer des interviews classiques. Mais en 5 minutes, il avait décidé. Quoi. Et c'était juste incroyable.
Et donc, vous combinez alors les études et le boulot?
Donc c'était un peu plus compliqué que ça parce que c'était difficile pour moi d'avoir mes papiers sur le coup. Donc finalement, j'ai pas pu prendre le job. Lorsque j'ai terminé mes études, j'ai été travailler dans leur agence de pub. Et c'est là que ils m'ont mis dans leur agence. Ils voulaient dans leur système, donc ils m'ont mis dans leur agence de pub. Donc j'ai commencé là. J'étais du mauvais côté de la table parce que tous les jours, je voyais mon client de l'autre côté. J'aimais ce qu'il faisait, je voulais être de leur côté. Donc après quelques années, ils m'ont récupéré dans la boîte. Et c'est là que j'ai appris mes bases. Hein. Procter & Gamble, c'est vraiment l'école de marketing par excellence, beaucoup plus que le diplôme et autre chose.
Quoi. Et vous ne regrettez pas d'être passé par là?
Oh non, pas du tout. C'est une expérience irremplaçable. Je pense que c'est une expérience qui a inspiré un petit peu ce que je fais. Parce que dans la création de notre compagnie et dans notre manière de gérer, il y a un peu cette ambition de vouloir faire les choses bien, mais aussi un côté développement humain, formation, important et rigueur que j'ai appris là-bas, quoi. Après quelques temps, je suis un peu indépendant. Donc, c'était bien. Je pense que lorsque j'ai commencé à travailler, je leur disais, je veux entrer dans une grosse boîte bien structurée parce qu'un jour je voudrais le faire moi-même et je voudrais apprendre chez vous.
Et c'est le cas aujourd'hui.
Absolument.
Si c'est pas un secret, allez, à quel âge hein?
47 ans.
Vous quittez Kinshasa pour Johannesburg. Vous arrivez à Johannesburg, vous êtes surpris agréablement. Plus envie de rentrer à Kinshasa après avoir découvert cette grande ville.
Au départ, faut dire que moi je suis la génération de ceux qui sont partis quand les choses. Quand je suis parti, ça commençait à aller mal. En plein dans mes études, il y a eu le pillage. Et donc, au début, je recevais tout de même mon enveloppe, modeste, mais je recevais mon enveloppe régulièrement. Et puis, il y a eu le pillage, et puis, il n'y avait plus rien, quoi. Donc, on a dû apprendre à se battre. Hein. On a tout fait, hein. On a lavé les assiettes, on a servi, on a été waiter dans les restos. On a fait un peu mannequin de temps en temps. Bref, tout ce qui était...
Ah bon, parce que vous avez fait le mannequin, hein.
La barbe n'était pas encore blanche, c'était pas ça.
Ok.
Et donc,
vous avez fait plusieurs petits jobs pour nouer les deux bouts du mois.
Exactement, oui. Et c'est ça, quoi. Et je me rappelle que lorsque j'ai terminé mes études, parce qu'on n'y pensait pas, quoi. Bon, on a fini et puis on dit, bon, on va rentrer. Et déjà pour moi, c'était compliqué parce que j'avais une offre d'emploi super alléchante. Et mes parents m'ont dit, écoute, Alain, c'est pas le bon moment pour rentrer. Voilà.
Alors, Alain, vous allez rester avec nous dans ce studio. On a contacté un ami d'enfance. Un ami à vous avec qui vous avez grandi, qui nous a dit qu'il vous connaissait très très bien. Vous allez le découvrir avec nous. Allô, bonjour.
Allô, bonjour, oui.
Comment vous allez, monsieur?
Ça va très bien, merci. À quel journal, s'il vous plaît?
C'est Radio Okapi qui vous appelle.
Ah, ok, d'accord.
Alors, je suis dans ce studio avec monsieur Alain Yav, que vous connaissez très très bien. Il est en train de chercher, hein. Il cherche à savoir qui c'est qui est au bout de fil. Alors, vous lui dites c'est qui? Ou bien on va continuer, on le laisse dans le suspense.
Écoutez, il pleut terriblement à l'ombre pour le moment.
Alors,
vous m'entendez?
On vous entend très bien. Il a deviné de ça. Il a deviné.
Il n'a pas le droit de parler. Lui, il n'a pas le droit de parler.
Pourquoi il n'a pas le droit de
il
parler?
Il va terminer ma réputation.
Alors, il dit que vous allez terminer sa réputation. Alors, Edo Magoma, parlez-nous d'Alain. Comment vous êtes connu?
Alain, on s'est rencontré à Lubumbashi dans les années 80, juste avant d'aller à l'UNIS, à l'UNILU. Voilà quoi.
C'est quel genre d'homme?
Alain, écoutez, si je dois le décrire, moi, Alain, c'est un homme très créatif en fait, et qui a beaucoup de principes dans la vie, et dont pour moi l'intégrité est le pilier. Voilà.
Vous l'avez découvert.
Merci, Edouard. Je le paye pour dire ce genre de choses sur moi.
Et donc, parce qu'il vous paye pour dire ce genre de choses.
Avec
vous n'êtes pas sincère.
Alors, on vient de prendre un gommé.
En libre.
Alors, vous le connaissez depuis longtemps. Vous avez grandi presque ensemble. Quel est son mauvais côté que vous n'aimez pas?
Le mauvais côté que je n'aime pas?
Ouais.
Il n'y a pas grand chose à ne pas aimer chez Alain. Donc, il faut dire que, bon, peut-être côté. Vous savez, il est beaucoup dans les détails, donc pour certaines personnes, ça peut être de la perfection, être perfectionniste, mais bon, c'est un mot que j'aime pas, moi, parce que la perfectionniste, ça n'existe pas. Le perfectionnisme n'existe pas plutôt. Je dirais juste qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Ça garde bien, on a chacun ses petits défauts, mais bon, c'est pas grand-chose, quoi.
Alors, Alain, vous êtes un gars bien?
S'il le dit, hein. Alors, ce qui Edo le dit, c'est que c'est vrai. Il critique Edo.
Alors, Edo, vous l'avez connu aussi quand il était en France, à Lubumbashi. C'est un ami à vous.
C'est un ami, c'est un frère, c'est. Edo, quoi, c'est bon.
Vous avez partagé beaucoup de choses ensemble.
Une bonne surprise, beaucoup.
Quelques souvenirs, on pense. Vous nous racontez?
Edo, on était ensemble il y a combien de temps? Il y a 3 semaines, hein, à Paris. Ouais.
Il y a 3 semaines
en carrière. Depuis quelques années, on se rencontre rarement. Mais bon, quand on se rencontre, c'est comme ça, j'étais vu hier. Mais bon, Edo, il sait que. Qu'est-ce que ça veut dire, Edo? Que je suis
un très perfectionniste.
Perfectionniste, que. Je suis un gros romantique, hein, vous êtes au courant? Je n'ai pas dit ça.
Très romantique, ouais.
Ah, ça, Edo a oublié de nous dire, hein.
On a fait les 400 coups. Les choses qu'on ne peut pas dire là.
On ne peut pas dire à l'antenne. Ok, j'ai tout compris. Alors, Edo, s'il y a un conseil à donner à Alain, ça serait lesquels?
Bon, un conseil. Moi, je pense que ce cas-là, depuis l'enfance, enfin depuis la jeunesse, il savait exactement où il allait, Donc, il avait à peu près, moi, je pense, pas rêver son parcours, mais l'écrire. Il a écrit son parcours et il a atteint beaucoup de ses objectifs. C'est vrai que dans le futur, moi, je vois que, bon, écoute, en dehors de l'héritage qu'il va laisser, par exemple, aux générations futures, comme Pygma, par exemple, donc, quand je parle de legacy, en fait, c'est-à-dire créer quelque chose qui a changé un peu la façon de faire les choses des médias, en fait, au Congo. Mais je pense que j'étais beaucoup ému lorsqu'il s'est, il a commencé à donner cours, par exemple, ou à faire des interventions dans des institutions académiques au Congo, pour partager ses connaissances, en fait, motiver les jeunes, donc à faire des interventions sur le plan, par exemple, de leadership ou de l'éthique de du travail. Pour moi, ça, c'est très important. Je crois que lorsque nous regardons, par exemple, un exemple, lorsque je prends, par exemple, Bill Clinton, qui était le président américain, aujourd'hui, Bill Clinton, et il sera on va se rappeler de lui dans les années à venir, dans plusieurs années à venir, hein, pour sa fondation, Bill Clinton, par rapport à Bill Clinton, l'ex-président américain. Et au fait, c'est ça que moi je l'encouragerais, donc d'aller dans continuer de ce côté-là pour enfin partager et chercher à former d'une manière ou d'une autre, bah, investir dans la dans les communautés qui nous entourent dans le futur. Voilà quoi.
Un mot à dire à Edo, alors?
Et nous, je t'avais pas aussi sage.
Non, vous avez gardé l'image des deux quand vous étiez jeune, quoi.
Non. En fait, on se comprend très bien, les deux, un petit peu dans le même secteur, parce que bon, je sais qu'il est très dévoué à développer les jeunes et autres. Et ben, écoutez, si on peut laisser quelque chose de positif, ce serait vraiment bien, quoi.
Alors Edo, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Mais avant de vous libérer, on va vous demander de lui dédier une chanson.
C'est bien une chanson là.
Oui, bien sûr.
Ouh là là. Bon, écoute, dédier une chanson. Écoute, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'Alain n'est pas nostalgique. Donc, il vit avec le temps, en fait. Donc, il a évolué. Donc, pour moi, je dirais plus le nouveau truc de Fally.
Mm-hmm.
Le nouvel album de Fally, quelle chanson?
Comment s'appelle encore? Allez, aidez-moi un peu là-bas. Aidez-moi, c'est quoi la chanson, la nouvelle chanson de Fally avec son nouveau clip?
Original.
Original.
Pardon?
Original.
Oh, voilà, original. Original, Yamado, ça fait un peu limite, en fait.
Yamado?
Pourquoi pas Yamado? Yamado, c'est pas mal non plus. Ça, la Tibia. Original.
Alors, merci.
Original de Fally, à coup sûr.
Merci beaucoup, Edo. On va vous libérer. Très bonne journée à Londres.
Allez, merci beaucoup, hein.
Merci.
Allez, Lino. À plus, hein.
Ok, allez, ciao.
Alors, il vous dédie la chanson originale de Fally Ipupa. Mm-hmm. On va l'écouter et puis on va se retrouver juste après pour la suite de notre entretien. On parlera maintenant du Pygma et de le meilleur de la RDC. Ça sera juste après original de Fally Ipupa.
Original. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Fally Ipupa Zikap la merveille. Original. Original. Laissez, écoutez bien. Original. Get up and dance, dance.
Africa, viens danser, Europa, viens danser, America, les Sud-America, pour moi, Asia, Haïti, et pas tout Gahaya. Nah.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Alain Yavre, PDG des Pigma Communication. Parlons de cette structure que vous dirigez, Alain Yavre. Comment est née Pigma Communication?
Pigma, c'est une petite aventure, on va dire. Hein. C'est un groupe d'amis qui passait beaucoup de temps ensemble en Afrique du Sud. Trois Congolais, un d'origine rwandaise et une Sud-Africaine, la seule femme du groupe. Chacun qui évolue un petit peu dans son domaine. Paul en finance et dans le domaine des mines. Mon frère Willy, qui était journaliste et qui est dans la production télé. Manla, qui était dans les télécoms. Et moi-même qui avait un background plutôt marketing et pub. Et donc on s'est dit, allons faire des choses sur le continent, parce qu'on pense qu'il y a réellement beaucoup à apporter sur le continent. Et donc de manière un petit peu informelle, on a commencé à...
Alors lorsque vous dites allons faire des choses sur les continents, vous étiez où, en Afrique du Sud?
On était en Afrique du Sud, oui. Donc c'est 5 amis basés en Afrique du Sud.
Quel continent, africain, parce que vous étiez en Afrique.
C'est le défaut des Sud-Africains. Alors, qui quitte l'Afrique du Sud, ils y vont en Afrique.
Ah, d'accord.
J'ai vécu trop longtemps. Et donc c'est cinq amis. Et c'était très social, en fait. Hein. Il faut dire qu'on s'est super, super, super bien amusés ensemble. Et puis, on s'est dit, mais tiens, parce que... Et on se plaignait. On se plaignait, mais vous savez, les choses ne vont pas bien. Au Congo, les choses ne vont pas bien. Et partout en Afrique, ça ne marche pas. On s'est dit, écoutez, arrêtons de nous plaindre et faisons quelque chose. Et donc, on a monté une petite boîte. On a commencé à sortir certaines idées pour... l'idée c'est que chacun de nous devrait monter une boîte dans laquelle chacun de nous devrait réellement se retrouver, dans laquelle il pourrait réellement s'épanouir et se retrouver et personnellement et financièrement et autres. Et donc c'est de là que part l'idée. Donc nous créons Pigma, qui vient de nos initiales, P pour Paul, Y pour Yav, on a pris Willy Yav, mon frère, donc Y pour Yav, G pour Gataraya pilote la partie immobilier du groupe. M pour Manla. Manla, c'est la seule femme du groupe. Elle pilote le groupe qui s'appelle Pigma Consulting. C'est du conseil très très spécialisé dans le domaine des télécoms. Et puis A pour Alain.
Venant avec ce projet au Congo, vous saviez que ça marcherait? Vous n'aviez pas un peu peur que ça ne marche pas?
On va dire qu'à un moment, on s'est jeté à l'eau. Hein. Donc on a créé la compagnie. Au début, comme je dis, c'était un petit peu les week-ends, les idées qui sortaient comme ça. Le premier à se jeter à l'eau, c'est Paul, parce qu'il est venu travailler au Congo pour gérer une compagnie minière. Ensuite, il y a Willy, mon frère, qui était déjà indépendant. En Afrique du Sud, il avait arrêté de travailler. Il travaillait pour TV Africa et autres, mais puis il était indépendant. Il est venu, il a pris des contacts avec Ogilvy, la grande agence de pub, pour qu'on les représente en RDC. Donc, il est venu avec, on va dire, déjà une offre de représentation pour une compagnie qui existait, potentiellement avec un client possible, parce qu'à cette époque-là, on travaillait avec Celtel. Donc on a signé le contrat Celtel, on a signé le contrat DSTV, il avait un petit minimum. Moi, à cette époque-là, je travaillais encore, je travaillais pour Cadbury, c'est un gros groupe de chocolatiers, après avoir quitté Procter & Gamble.
En Afrique du Sud?
En Afrique du Sud, oui. Et donc, naturellement, c'était mon métier, donc derrière, je les aidais à développer des campagnes et autres, mais je le faisais à distance. Et puis un jour, je me dis, mais écoute, j'ai démissionné. Je crois qu'un jour, comme ça, lorsque je fais quelque chose, je le fais à 100%. Donc dans mon job, au jour le jour, j'étais dedans, mais à 100, à 150%. Et puis un jour, je me suis levé, je dis à mon boss, non, moi j'y vais. Je vais travailler pour moi-même, c'est bon. Et donc je prends l'avion, j'ai un kin, et puis c'est parti, quoi. Je sais pas, je crois qu'on n'a pas regardé devant nous. Je pense qu'on avait un client, qu'on avait quelque chose de tangible sur lequel bâtir. Et puis on a juste foncé, quoi.
J'étais parti. Est-ce qu'il y a une différence entre Pigma Group et Pigma Communication?
Oui, Pigma Group, en fait, c'est le groupe holding, c'est le groupe que nous avons composé ensemble. Et comme j'ai dit, sur base du groupe, on développe différentes activités. chacune des activités en fait est pilotée par un des fondateurs qui le développe dans son métier. Donc on a développé Pigma Consulting qui fait du conseil, on a développé Pigma Communication
que vous pilotez.
Oui. Et Pigma Communication est complètement focalisé dans le développement, dans la communication. Mais là aussi, on parle encore d'un groupe plutôt intégré de différentes activités, mais c'est de la communication essentiellement.
Alors, parlons de Pigma Communication, dont vous êtes le PDG. Communication, quel genre de communication faites-vous?
Écoutez, on a commencé par faire de la pub classique. Okay, et lorsqu'on parle d'une agence de pub, on parle de développer des conseils, du conseil marketing. On parle de développer des idées créatives. Donc, on vendait à nos clients de superbes concepts créatifs pour bâtir leur marque. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que il y avait probablement beaucoup plus à offrir dans le marché. Parce que, premièrement, nous vendions de superbes idées, mais lorsqu'elles devaient être exécutées, c'était pas toujours comme on voulait. Ça coûtait ou bien trop cher, ou c'était mal fait, c'est pas arrivé dans les délais et autres. Alors, nous avons ce qu'on appelle une croissance verticale. Donc, nous avons créé une compagnie de production télé. Donc, on a commencé à développer, produire nos propres pubs. Donc, on les écrivait, on les réalisait nous-mêmes. Ensuite, il y avait une grosse opportunité, en fait, pour commencer à développer des services en termes de relations publiques. Donc au lieu de faire juste de la communication commerciale, il y avait de la place dans le marché pour de la communication corporate, institutionnelle et autres. Et donc nous avons recruté des personnes qui avaient de l'expérience dedans et nous avons donc lancé la partie Pigma relations publiques. Et une autre manière de communiquer de plus en plus importante, où les clients mettent de plus en plus de budget, c'est de la communication one-on-one. Et là, c'est là que nous avons développé la partie Pigma Activation, qui est la partie événementielle. Beaucoup plus récemment, dans tout ce qu'on fait, on essaie de rester en avant sur les tendances. L'environnement de la communication est en train de se transformer. Le digital transforme nos vies, donc notre manière de vivre, mais aussi notre manière de communiquer. Et donc, c'est la dernière partie sur laquelle nous investissons très fort en lançant Pigma Digital.
Alors, Pigma emploie combien de gens aujourd'hui?
On a environ 80 permanents, en moyenne une soixantaine de non-permanents, mais qui travaillent pour nous 10 mois sur 12, hein, parce qu'en général, ils sont sur des projets quasi permanents. Lorsqu'on est sur un projet comme Miss Vodacom, 60 personnes pendant 3 mois, et après Miss Vodacom, il y en a un autre et autre. Donc on va dire 140, on va dire.
Et c'est depuis quand que Pigma Communication existe?
Pigma Group existe depuis 2002 à Johannesburg, mais la partie com existe depuis 2014. Donc on a 10 ans maintenant, hein. on n'est plus des enfants.
C'est beaucoup, hein, 10 ans, c'est vraiment beaucoup. Alors vous avez plusieurs partenaires.
Partenaires en termes de qui travaillent avec nous.
Qui travaillent avec vous. Est-ce qu'il faut parler des partenaires ou clients?
Ah, les clients, d'accord.
Plusieurs clients.
Oui, en effet. Vous savez, lorsqu'on a commencé notre activité, l'approche qu'on a prise, c'était de faire les choses bien. Et donc, notre objectif, c'était vraiment, un peu comme ça qu'on en parle, on dit, c'est des clients de première classe, une agence, des services de première classe, en employant des personnes de première classe pour des clients de première classe. Et donc, et l'approche que nous avons eue, c'est d'aller sur les compagnies, on va dire, qui ont envie, comme nous, de changer les choses et de faire les choses bien et grandes, en effet. Là, je parle de Bralima, avec qui nous sommes depuis 10 ans déjà. On a commencé en 2004. Je parle de Vodacom, avec qui on est depuis bientôt 6 ans. Mais bon, il y en a eu d'autres. Hein. On a travaillé avec Nestlé, on a travaillé longtemps avec Nokia. Nous travaillons au Congo en face, Congo-Brazzaville, avec Brasco là-bas, c'est l'équivalent de Bralima ici.
Est-ce que vous travaillez aussi en province?
Oui, absolument.
Ou bien vous limitez à Kinshasa seulement?
Non, nous, ce qu'on fait, c'est que on accompagne nos clients là où ils ont besoin d'être. Vodacom est national, donc nous n'avons pas nécessairement des bureaux ailleurs, mais nous avons des activités qui vont largement au-delà de... dans les régions principales, hein, au Katanga... lorsque nous faisons un show comme Miss Vodacom, nous avons une équipe déployée dans les 11 provinces. Donc on est partout en fait.
Radio Capi, grand témoin.
Alain Yav, PDG de Pigma Communication, est celui que grand témoin vous présente aujourd'hui. Alors Pigma Communication vient de publier un ouvrage intitulé « Le meilleur de la RDC ».
Le meilleur de la RDC.
Ouais. Une centaine de pages pour faire découvrir la RDC au monde.
Quelques centaines de pages, on va dire. C'est 320 pages exactement.
Oui, 320 pages pour faire découvrir la RDC au monde.
Et faire découvrir la RDC au monde, mais aux Congolais aussi. Hein. Vous n'imaginerez pas comment les gens, comment les Congolais eux-mêmes ne connaissent pas le pays, ne connaissent pas ce que le pays a à offrir, en fait. Et ça, c'est ça. C'est en fait une belle vitrine de la RDC. Nous avons tous, nous avons tellement à offrir dans tous les secteurs que c'était important de le saisir et de le raconter.
Alors certaines personnes estiment que c'est une communication politique quand même. À une année des élections, vous publiez un ouvrage sur la RDC, le côté positif de la RDC. Est-ce que c'est une pub que vous faites pour le gouvernement?
Non, en fait, nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes dans un domaine où la passion est importante. On pensait que c'est important, qu'il y a tellement de choses à raconter sur la RDC, qu'il fallait le mettre en œuvre. Ça fait quand même 3 ans que nous avons commencé à travailler dessus. On a travaillé dessus longuement, voyagé à travers le pays, fait des recherches. Il y a plus de 600 photos dans ce livre-là, rédigé des pages et des pages de textes. Nous vendons le pays, nous vendons le Congo, on le vend de manière bien. Et le projet a été financé essentiellement par nous-mêmes et par nos clients principaux. C'est nos clients principaux qui ont été sponsors. On va dire, on les a intéressés pour sponsoriser ce livre-là.
Mais pourquoi avoir fait le choix seulement sur tout ce qui est positif?
Parce que le négatif, il est dans la rue. Tout le monde se raconte le négatif. Il y a tellement de choses positives à faire, il y a tellement de choses positives à raconter que la plupart de gens, en fait, s'arrêtent sur le négatif. Moi, je dis, le négatif, on l'a déjà. Okay? Le négatif, on l'a déjà. S'il y a une coupure de courant, c'est vrai, il y a une coupure de courant. Mais c'est tout de même dommage de célébrer le négatif quand il y a du positif à célébrer. Je pense qu'il faut célébrer le positif d'abord. Et puis, derrière, les réalités sont les réalités. Mais partout au monde, il y a du négatif.
Alors vous parlez des richesses de la RDC, richesses minières, qui malheureusement ne profitent pas à la population, à tout le monde. Mais vous vantez quand même ce scandale géologique qu'est la RDC.
Vous savez, la signature, on va dire, le motto de Pygma, c'est, on le dit en anglais, c'est « Unlocking Africa's Potential », c'est débloquer le potentiel africain. Je déteste le mot « potentiel », parce que personne ne mange le potentiel. Le potentiel ne paye pas le loyer. Le potentiel n'est pas de nourriture sur une eau sur son plat. Mais je pense que c'est le début de l'histoire. Nous parlons en effet du potentiel naturel dans le pays regorge. Mais je pense que ce que nous faisons, c'est que nous parlons beaucoup plus de ce qui a été réalisé, de ce qui a réalisé. Et principalement le potentiel humain et autres que dont nous regorgeons, en fait.
Vous parlez aussi de l'ambiance à Kinshasa.
Tu parlerais de Kin. Vous savez, Kin, comme j'ai dit, moi j'ai grandi à Kin, et Kin, c'est une valeur tellement importante du quinois. Elle a été connue à travers le monde. En fait, tous mes amis africains rêvent de Kinshasa parce que c'est pour être la capitale de l'ambiance. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a arrêté de clamer, encore une fois. Aujourd'hui, les Nigérians font du bruit, les Nigérians, les Ivoiriens, mais le cœur de l'ambiance, là où ça vibre, là où ça vit, c'est Kinshasa. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'on ait faim.
L'ambiance à Kinshasa, capitale de la sape aussi.
Ah, c'est ça. Et naturellement, on parle des sapeurs,
Mais ça, c'est connu, non?
Oui, on a arrêté d'y penser. Alors, comme j'ai dit, nous n'inventons rien. Ce que nous disons, c'est ce que les gens savent, mais qu'ils oublient. Alors on leur raconte, on parle des artistes.
Vous rendez hommage aux artistes, justement, dans cet ouvrage, artistes plasticiens.
Un superbe export de notre pays à l'extérieur. Faut voir combien les amis étrangers en demandent. Ici, je pense que je crois qu'il faut leur rendre hommage parce que, à travers les hauts et les bas que le pays traverse, je pense que c'est quand même un aspect qui reste positif. Je parle de plasticien, mais je parle de musicien aussi et autres. Hein, on en a parlé dans le livre aussi. parce que c'est ces gens-là qui restent constants et qui reflètent un petit peu ce que nous sommes réellement.
Mm-hmm. Dans cet ouvrage, vous parlez du docteur Mukwege. Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Je pense que le docteur Mukwege fait dans son domaine ce que j'essaie de faire dans mon domaine et ce que je pense que beaucoup de gens devraient faire dans leur domaine. Je pense c'est des personnes qui ont choisi de voir les choses à faire plutôt que de subir ce que les choses étaient et qui ont essayé de les rendre positives. C'est ce que nous faisons dans notre domaine. Lorsqu'on est arrivé, le domaine de la communication était quasi mort et on s'est dit mais tiens, on peut faire les choses correctement dans des standards corrects. Pour moi, je pense que c'est une bonne référence pour tout le monde et je crois que c'est une inspiration pour les jeunes aussi.
Et donc l'objectif de cet ouvrage, c'est vendre la RDC.
Vendre la RDC aux Congolais et vendre la RDC au monde. Que les Congolais découvrent tout ce que le pays a à offrir et que le monde entier le découvre aussi. Si le Congolais y croit, et il en est fier, le Congolais est un peu plus fier naturellement, l'extérieur le croira aussi et sera fier. Je crois que c'est important que nous réécrivions un petit peu les titres ou le narratif de notre histoire. Il y a des hauts et des bas, mais l'Amérique s'est construite parce que les gens ont cru dans un idéal, ils l'ont raconté, ils racontent leur histoire positivement. Je crois que c'est important que nous, les Congolais, racontions l'histoire de notre pays, voilà, positive.
Alors Alain Yav, nous sommes à la fin de notre entretien. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Quel conseil vous donnerez à tous ces jeunes qui ont envie de faire comme vous?
Moi, je dirais qu'ils devraient croire en eux. Je pense que, je viens de le dire, ils ne devraient pas subir, parce qu'à n'importe quel niveau, il y a moyen de changer les choses. Lorsque j'étais invité à l'UPC, c'est un jeune étudiant qui m'a abordé. Il dit, tiens, voilà, on voudrait... Et j'ai senti en lui qu'il avait envie de changer les choses à son niveau. Je pense que c'est, y a pas de magie à ça. Hein. C'est se dire que les choses ne doivent pas être nécessairement comme elles sont et que soi-même, à son niveau, on peut réellement faire un pas qui va faire que les choses vont aller de l'avant. Et je crois que c'est important. Si moi je le fais, si mon voisin le fait, et puis si 10 000, 100 000, 1 million de personnes le font, on sera surpris de ce que nous sommes capables de réaliser en tant que pays.
Alors, vous donnez cours dans certaines universités ou bien vous organisez des conférences?
Non, c'est des apparitions. Je parle à l'avenir. Par exemple, je suis allé parler d'entrepreneuriat aux jeunes. L'entrepreneuriat, c'est le futur de ce continent. Nous sommes un peu de ceux qui croyons que les Africains ont plus que de la politique à offrir. On pense que l'entrepreneuriat est ce qui va réellement développer ce pays. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup prêcher chez les jeunes. Entrepreneuriat et leadership.
Merci beaucoup, Alaya. C'est la fin de cette émission. Merci à Sylvain Matundu qui était à la prise de son au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.